Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission très particulière consacrée au prix littéraire Voix d'Afrique qui vient d'être décerné pour la troisième fois. Une récompense, je vous le rappelle, créée par RFI, les éditions Jean-Claude Lattès et en partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris et dont l'objectif est de faire émerger les nouvelles plumes du continent africain qui n'ont jamais été publiées, qui ont moins de 30 ans et qui écrivent en français. Cette année encore, vous avez été nombreuses et nombreux à nous envoyer vos manuscrits qui ont été départagés par un jury présidé par l'écrivain Abdourahmane Ouaberi, des délibérations au terme desquelles a été choisie une lauréate qui est avec moi maintenant en studio. Bonjour Ernis.
Bonjour Catherine.
Vous avez 28 ans, vous vivez au Cameroun, vous êtes slameuse et auteure de ce premier roman primé qui vient donc de paraître sous le titre « Comme une reine » aux éditions Lattès. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir gagné ce prix Voix d'Afrique ?
Alors ce prix est une grande récompense parce qu'il faut le dire, je ne l'espérais pas. J'ai écrit pendant plusieurs années et je ne savais pas qu'il y avait un concours ou un prix qui m'attendait quelque part. Alors que j'apprenne que je suis lauréate du prix Voix d'Afrique, c'est une très grande joie. Déjà pour moi qui écris, pour ma famille et j'imagine pour tous les jeunes Camerounais, pour toutes les jeunes Camerounaises qui écrivent parce que je ne suis pas seule, nous sommes nombreux. Et voilà, c'est aussi un espoir pour ce jeune-là qui évolue dans une société où l'écriture n'est pas très aisée.
Et vous, quand vous étiez plus jeune, même si vous l'êtes encore, est-ce que vous rêviez d'être écrivaine, romancière et d'être publiée ?
Non, je ne rêvais pas d'être écrivaine, mais j'ai toujours lu tout ce qui passait. Je m'intéressais à tout, à l'école, je lisais. Je ne savais pas que j'allais un jour écrire jusqu'à ce que j'arrive en classe de seconde. Parce que je le dis, j'ai vraiment rencontré la littérature en seconde quand j'ai lu Balafon de Gelbin Vin. C'est un auteur camerounais, paix à son âme. Il écrivait sur la fraternité, il écrivait sur l'amour, comment est-ce que les Africains doivent se comporter ou se percevoir dans le monde d'aujourd'hui. Alors j'ai trouvé ça très beau et voilà, je me suis mise à la poésie.
Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce prix Voix d'Afrique ?
Le prix Voix d'Afrique, disons je l'ai découvert en novembre de l'année passée. Il y a une amie qui m'est très chère qui m'a dit « Tiens, tu me dis que tu écris, est-ce que tu ne peux pas candidater au prix Voix d'Afrique ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas ce que c'est que le prix Voix d'Afrique. » Et donc, je suis allée sur Internet, j'ai soumis mon texte une semaine après. Il faut le dire, je n'y croyais vraiment pas parce que je me demandais « Mais qu'est-ce que j'ai bien écrit d'important ou bien d'intéressant pour être une lauréate ?» Mais voilà, j'ai fait confiance à mon intuition et j'ai envoyé le texte.
Et vous avez bien fait, en effet. Dans un instant, on va en parler de ce texte comme une reine. Oui. Mais pour commencer, si vous voulez bien, Ernis, on va parler de vous un petit peu. Vous êtes née en 1994, donc, dans la ville de Bafoussam.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre enfance ? Dans quelle famille avez-vous grandi ?
J'ai grandi entre les mains de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de ma mère.
Trois générations de femmes, donc.
C'est ça. En fait, ma mère a quitté le mariage très tôt, à ma naissance, parce qu'elle était dans un foyer assez difficile. Elle était battue. Bon, d'après ce qu'elle me dit, elle n'était pas du tout aimée. Et à ma naissance, elle a vraiment quitté le ménage. Parce qu'il y avait moi, il y avait un bébé malade qu'elle avait dans les mains. Et à ma naissance, ce bébé-là est décédé. Elle est rentrée chez ses parents avec moi et après mon arrière-grand-mère m'a récupérée. Je suis restée avec elle jusqu'à son décès. Je suis retournée voir ma grand-mère et après j'irai voir ma mère. Et c'était vraiment entre les mains de ces femmes que j'ai grandi, sans compter mes tantes, mes cousines qui étaient à côté. Oui, mon histoire est très féminine. Voilà.
Et ensuite, vous avez étudié la philosophie, n'est-ce pas ?
C'est ça.
À l'université de Yaoundé.
Oui.
Mais ce ne sont pas des essais que vous avez écrits, en fait. Ce sont des poèmes. Pourquoi ?
J'ai rencontré la philosophie en classe de terminale et je trouvais qu'elle répondait aux questions de mon quotidien. Elle me parlait de la liberté, de la responsabilité et de tout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas embrasser cette philosophie, cette filière à l'université ? Et voilà, j'ai fait quelques années d'études à l'université et aux portes du master, j'ai démissionné parce que je sentais que j'avais obtenu ce que je voulais. J'avais atteint une certaine paix intérieure. J'étais satisfaite, plus ou moins satisfaite. Et je me suis dit, voilà, je quitte l'université. Je ne suis pas venue. Ces études, ce n'était pas pour avoir un diplôme, c'était pour chercher un épanouissement personnel. Et j'ai quitté l'université, j'ai embrassé la poésie, qui était mon premier amour, comme je l'ai dit. J'ai commencé à écrire des poèmes en seconde.
Des poèmes qui parlaient de quoi ?
Mes poèmes parlaient tout le temps des enfants, de la condition des enfants. Pas des jeunes filles, mais là, je parlais vraiment des enfants parce que dans nos villages, que vous soyez garçon ou fille, quand la vie est difficile, elle est vraiment difficile. Et je parlais aussi de la justice parce qu'on vit dans une société vraiment éclatée. Il y a une classe qui est opulente et qui vit très bien au détriment de la classe, je ne dirais même pas moyenne, des prolétaires. C'est-à-dire la société est divisée en deux grandes classes. Et je me posais toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir cette division dans la société? Et ces questions s'adressaient en fait à moi-même. Parce que je me disais, oui, voilà, tout le monde me disait que je suis intelligente à l'école. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas les moyens pour faire ce que je veux, faire des études que je veux, me vêtir comme il faut pour aller à l'école, alors que des enfants qui ne fournissent pas d'efforts sont bien mis, ils mangent bien et tout. Voilà, ma poésie était le questionnement sur mon quotidien personnel et donc c'était ça.
Et ensuite, Ernis, vous êtes devenue slameuse. D'ailleurs, je précise, Ernis, c'est votre nom de scène,
oui,
d'artiste.
C'est ça.
Votre vrai prénom, c'est Clémence, n'est-ce
pas ?
C'est ça. C'est à ce moment-là que vous devenez Ernis en faisant du slam ?
Non, je deviens Ernis quand ma mère rentre chez ses parents avec moi. Parce que le prénom Clémence m'avait été attribué par mon papa. Et quand ma mère arrive chez eux, elle dit « Je me détache de cet homme, je me détache de tout ce qui lui appartient ». Et là, elle a commencé à m'appeler Ernis. J'ai dit souvent mon prénom, c'est le premier acte de révolution de ma vie. Et tout le village m'a appelée Ernis. Moi, déjà, c'est en classe de moyenne deuxième année que j'ai découvert que je m'appelais Clémence. Et je n'ai jamais adopté ce prénom. Je m'appelle Ernis.
Donc, ensuite, vous devenez slameuse.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre, qui est un genre à la fois poétique, ouais, et musical ?
Il faut noter qu'en 2017, je figure parmi les lauréats du concours national de poésie.
Au Cameroun ?
Au Cameroun. Mais je suis triste parce que le prix n'est pas vulgarisé. Nous étions, je pense, 12 lauréats, mais on a juste primé les 3 premiers comme si le reste était des malpropres. Et moi, je trouvais que j'avais fait un travail formidable. Et voilà, je me suis dit, pourquoi écrire et garder dans les livres ou dans les tiroirs ? Le livre avait été publié, mais il fallait que nous, les auteurs, nous achetions.
Oui, ça c'est le problème de l'édition souvent,
c'est ça,
qui demande aux auteurs de payer parce que ce ne sont pas des éditions professionnelles.
Exactement. Et là j'ai dit, je ne vais plus publier, je vais dire ma poésie dans la rue, dans les bars, je vais écrire pour partager. Donc c'était vraiment ce souci du partage parce qu'à un moment donné je me suis dit, l'écriture n'a pas de sens si elle n'est pas partagée. Oui, c'est ça.
Alors, je pense que les auditrices et les auditeurs aimeraient bien entendre une de vos compositions. Il se trouve que récemment, sur les réseaux sociaux, vous avez posté plusieurs titres, dont l'un qui s'intitule « Viens » et un autre « Appartement 504 ». Est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux qu'on puisse partager aujourd'hui sur RFI ?
J'ai une préférence pour Vien parce que, voilà, Vien, je me sens partout avec Vien, à l'aise partout avec tout le monde. Ouais.
On l'écoute.
Quand tu viendras chez moi, quand tu viendras chez moi, quand tu viendras chez moi, viens noir, viens blanc, ta différence, je la veux, je la sens, elle me manque. Ta différence, je la veux, je la sens, je ne peux pas vivre sans. Viens avec ton esprit napeuse, instable. Viens avec ton âme trouble, revolte folle. Viens avec tes pensées rebelles qui vaguent. Viens me donner un peu de ton vertige, un peu de ta fièvre, un peu de ta tourmente, car au fond on se ressemble. On est des poètes insatisfaits, des poètes solitaires, des poètes intranquilles. Quand tu viendras chez moi, viens blanc, j'ai du noir, viens noir, j'ai du blanc, j'ai toutes les couleurs. Quand tu viendras chez moi, viens, viens. Sans ton souffle, sans tes mots, je meurs. Sans ton verbe, mon esprit tombe en ruine comme ces châteaux inhabités, délaissés, hantés par les fantômes de l'histoire, par le spectre de la solitude. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens blanc, viens noir. Ta différence, je la veux, je la sens, elle me manque. Je te servirai du tarot, de la tchiki, du sorgho. Viens me donner de ta peine, de ta joie, de ton regard, de ta beauté, de ta laideur, de ta grandeur, de ta petitesse. Quand tu viendras chez moi, viens. Viens d'un Bouddha, de Douala, de Chan, d'Abidjan, de Paris, de Maryland. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens. Parce que tu es ma poésie. Parce que la poésie est mon talisman. Je la cherche dès l'aube. Sans elle, mon âme s'alanguit. Elle est le verbe de mes lèvres. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens noir, viens blanc, ta différence, je la veux, je la sens, elle me manque. Ta différence, je la veux, je la sens, je ne peux pas vivre sans. Viens comme tu es avec tes rêves, mais viens. Viens.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières avec aujourd'hui une invitée très spéciale puisqu'il s'agit de la lauréate de la 3e édition du prix littéraire Voix d'Afrique, Ernis, qui est l'auteur d'un premier roman intitulé « Comme une reine » aux éditions Jean-Claude Lattès, notre partenaire, et qui, grâce à la résidence qui lui est offerte à Paris par la Cité internationale des arts, est venue du Cameroun pour quelques semaines et est avec nous en studio à RFI. Donc, après avoir découvert votre parcours, Ernis, nous allons parler maintenant de ce roman, d'accord, cette première publication, Comme une reine, qui met en scène donc une jeune Camerounaise, Noupoudem.
Noupoudem, c'est ça.
Qui vit à Douala depuis 3 ans, mais qui n'a pas l'air d'être très épanouie. Pourquoi n'est-elle pas heureuse, selon vous ?
Elle n'est pas heureuse parce que sa société, son pays ne lui offre pas les opportunités auxquelles elle a droit. Je pense que c'est exactement ça, parce que c'est une jeune femme qui a fait des études, c'est une jeune femme qui se bat au quotidien pour vivre, mais qui est seule, qui est abandonnée, qui n'a vraiment pas d'issue. Voilà.
Qui fait un petit boulot.
Qui fait un petit boulot.
Dans une auberge.
Oui. Et qui arrête à un moment donné parce que même ce petit boulot, c'est encore de l'exploitation, vu que c'est de l'informel. Elle va arrêter et elle va retourner sur les terres de ses pères.
Donc, sur un coup de colère aussi, elle décide de rentrer au village.
Oui.
Elle monte dans un bus, ce sont des scènes très drôles d'ailleurs, oui, parce qu'elle est très vive, oui, elle est un peu, comment dire, oui, en colère contre tout ce qu'elle voit. Enfin, on sent qu'elle bouillonne, oui, d'énergie, qu'il y a sans doute aussi une forme de frustration.
Oui.
Donc voilà, elle décide de partir, retrouver sa grand-mère qui l'a élevée. Vous aussi, vous avez fait ce voyage, Ernis, vers vos origines à...
J'ai fait ce trajet au moins 40 fois, hein. Par exemple.
Par le même bus ?
Pas exactement le même, mais les bus se ressemblent. Je voyage au moins 20 fois par an vers mon village. Donc.
Et pourquoi ce besoin de revenir aux sources ?
Parce que je sens que c'est là que je respire le mieux. Oui. Et parce que au village, tout est naturel. Au village, les gens sont sincères. Les gens accordent du temps aux autres. La ville, elle m'a toujours un peu embarrassée parce que tout le monde est pressé. Personne ne s'occupe vraiment de l'autre. On dirait que tout le monde se questionne sur ce qu'il va manger le soir, avec quoi il va payer son loyer. Alors qu'au village, il y a vraiment cette illusion. Ce n'est même pas une illusion. Il y a un apaisement. La vie s'arrête à un moment donné et on pense à son existence. On se dit, qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Est-ce qu'on ne rend pas visite aux voisins ? Est-ce qu'on ne tend pas la main aux voisins ? Est-ce qu'on ne puise pas l'eau à la grand-mère d'à côté ? Donc voilà pourquoi je rentre toujours au village.
Et donc, avec vous, Ernis, on redécouvre, comme nous Poudem, d'une certaine façon, les coutumes ancestrales de cette société Bamileke.
Oui.
C'est aussi votre culture, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ma culture.
Une société, une culture très traditionnelle.
Très traditionnelle, oui.
Trop.
ça dépend vraiment de ce que vous mettez dans trop, hein, parce que comme toutes les cultures, elle évolue au fil du temps. Peut-être pas au rythme que moi j'aurais souhaité ou au rythme que les habitants auraient souhaité, mais elle évolue à son rythme, oui.
Je vous pose la question, Ernis, parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, cette culture n'est pas forcément bienveillante envers celles et ceux qui sortent, entre guillemets, du rang, par exemple, les femmes seules,
ouais,
les prostituées. D'ailleurs, j'ai appris avec vous cette jolie expression, les vendeuses de piment.
Oui.
Les femmes qui sont malades du sida.
Oui.
Ça vous chagrine qu'il y ait cette mise à l'écart d'une partie de la population ?
Bien sûr que cela me chagrine parce que j'aimerais vivre dans une société inclusive où on accepte tout le monde avec ses différences, avec ses défauts, avec ses tares. Mais il faut le dire, la société Bamileke, comme d'autres sociétés en Afrique et partout dans le monde, est devenue patriarcale. Les femmes sont vraiment de temps en temps mises à l'écart. C'est une société qui est très belle, que j'aime. Je vante tout le temps les traditions Bamileke. Mais il faut dire, sur la question de la femme, on peut avoir à redire parce qu'il n'est pas rare d'entendre des gens dire que les hommes, ils sont faits pour travailler, créer, tandis que la femme, elle doit procréer. Et donc, oui, les choses avancent avec de nouvelles générations. Moi, je dirais, c'est une société qui est restée forte, qui est restée accrochée à ses traditions, mais qui, de temps en temps, peut être un peu lourde pour la femme.
Et on en reparlera dans un instant, puisque effectivement c'est tout le parcours que va connaître votre narratrice. Encore une petite parenthèse, on parlait de mise à l'écart, de la même façon que votre personnage.
Oui.
Donc Poudem, elle a des dons de médium.
Oui, c'est ça.
Et elle est traitée un peu différemment, comme si elle faisait peur, parce qu'elle a des visions. Est-ce que c'est le cas en effet ?
Ce qui m'a inspiré cette partie-là, c'est pas forcément la société Bamileke. J'ai constaté que la société a tendance à rejeter des personnes, comme je le disais, qui sont différentes. Et vous savez, quand on parle de sorcellerie en Afrique, c'est un phénomène qui fait très peur. Du coup, quand quelqu'un est différent, on ne cherche pas à savoir l'origine de sa différence. On a peur. En fait, et cette peur-là, je la comprends, c'est la peur de l'inconnu. C'est parce qu'on ne vit pas avec la personne, on ne voit pas sa vie de tous les jours se dérouler. C'est vraiment la peur de l'inconnu, comme je le dis. Et dans la société Bamileke, par contre, les médiums ne sont pas mis à l'écart parce qu'ils font partie de la vie de tous les jours. C'est l'une des choses que la société Bamileke a vraiment très bien conservée.
Et vous, vous voyez des médiums, Ernis ? Ou peut-être que vous en êtes une, d'ailleurs ?
Non, il y a des médiums dans ma famille.
Mais vous aimeriez avoir des visions, vous, Ernis ?
Déjà, j'ai mon intuition qui est très forte. Et j'ai confiance en elle. Est-ce que j'aimerais avoir des visions ? Le fait d'être écrivain, déjà, me pousse à dire que j'ai des visions. Le fait de pouvoir créer, imaginer une histoire, la structurer, l'écrire. Je me dis oui, parce que je suis sûre, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être une jeune comme moi qui me lira et que mon roman lui parlera. Ça, c'est une vision.
Continuons avec vous, Ernice, de feuilleter et d'avancer dans ce roman comme une reine, parce que Noupoudem va retrouver Kazé, son amour d'enfance. Oui. Et là, des années après leur séparation, oui, ils sont de retour l'un et l'autre au village. Elle, on l'a dit, pour se ressourcer, et lui, parce que son père est mort, oui, et qu'il va devenir le roi de la chefferie. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, nous expliquer ce qu'est une chefferie au Cameroun, Ernice ?
La chefferie au Cameroun, c'est en région Bamileke spécifiquement, c'est la plus haute autorité traditionnelle et religieuse. Oui, bon, disons, avant l'arrivée des colons, de l'administration, c'était vraiment la chefferie qui organisait le village, qui définissait les lois et qui veillait à leurs applications. Le chef est le garant des lois traditionnelles, des lois religieuses, du patrimoine du village.
Et donc, coup de foudre entre Noupoudem et Kazé, enfin, nouveau coup de foudre. Ils se marient, oui, ils ont des jumeaux. Et là, elle qui, jusqu'ici, était plutôt une femme moderne, indépendante, libre, contre même certaines coutumes, oui, la polygamie, par exemple, oui, elle va changer et elle va accepter que son mari ait plusieurs épouses.
Oui.
Pourquoi change-t-elle d'avis, Ernice ?
Plus on grandit, plus la pensée, l'idée change. Je veux dire, la polygamie qu'elle trouvait assez nocive par le passé, elle va être confrontée aux difficultés. Elle n'aura pas de choix. En fait, elle va accepter la polygamie pour sauver son mariage.
Et dans quel sens ça sauve son mariage ?
Ça sauve son mariage parce que si elle refuse la polygamie, elle ne sera plus l'épouse de Kazé qui est son amoureux depuis l'enfance. En fait, c'est un peu ambigu, mais c'est au nom de l'amour qu'elle accepte cette polygamie. Et c'est parce qu'elle sait que la polygamie est vraiment traditionnelle. La polygamie, c'est un fait accepté de tous dans le village. Elle cherche comment être heureuse avec son amoureux sans aller à l'encontre des traditions du village. Parce qu'il faut le dire, même si c'est une femme très moderne avec ses propres règles, elle a aussi une grande estime pour ce village dans lequel elle a grandi et qu'elle ne m'aurait pas voir brisée. C'est surtout ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, pour reprendre votre expression, oui, voire un paradoxe, parce que pour moi, ce roman revendique la place et le rôle des femmes dans la société, oui, pour qu'elles soient reconnues, oui, pour qu'elles soient aidées, oui, quand elles sont seules, quand, oui, elles sont malades. J'avais l'impression que la polygamie était contraire au féminisme.
Bon, Catherine, moi, ça dépend de ce qu'on appelle polygamie aujourd'hui et ça dépend du contenu qu'on met dans le terme féminisme, parce qu'il est tellement interprété aujourd'hui que moi-même, j'ai parfois du mal à dire si je suis féministe ou pas. Maintenant, la polygamie, dans ce sens, quand vous poursuivez la lecture du livre, vous voyez, il y a Noupoudem qui le dit. Noupoudem veut dire tout à Dieu en ma langue maternelle, Ngembon. Il y a Noupoudem qui dit qu'elle est contre la polygamie spécifiquement associée aux hommes. Ça veut dire que si, dans son pays, si au Cameroun, en région Bamileke, la polygamie concernait aussi des femmes, elle n'allait jamais avoir de problème. Ça veut dire, si on veut parler de féminisme, si on veut parler de l'égalité, si les hommes ont droit à 2-3 compagnes, laisser les femmes avoir droit à 2 ou 3 compagnons. En fait, c'est ce sens qu'elle donne à la polygamie. Je pense que la polygamie, c'est une question très intime. Et moi, personnellement, je me réserve d'entrer dans la vie intime des gens. Si 2, 3, 4 personnes consentantes se décident de se mettre ensemble, qu'ils se mettent ensemble. Mais seulement que le même droit que la société accorde à l'homme, qu'elle accorde aussi à la femme.
On est bien d'accord.
Ouais.
Si la polygamie existe, il faut qu'elle soit réciproque.
C'est ça.
Et vous accepteriez une relation polygame ?
Je ne me suis pas encore posé la question. Je ne me suis pas encore posé cette question.
En tout cas, c'est un roman où vous abordez quand même des sujets très sensibles, Hérnice. On vient de le dire, la polygamie, aussi la question de l'avortement.
Oui.
La sorcellerie, on en a parlé, la maternité, le sida.
Oui.
Vous prenez à bras-le-corps quand même des thèmes importants.
Oui, oui, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il est important de parler, il est important de libérer la parole, parce que au Cameroun, la jeune femme a peur de parler. Elle a peur du regard des autres. Parfois, elle a mal, mais elle ne peut même pas dire. Elle ne peut pas le dire parce qu'on va la juger. Il y a aussi le phénomène des hate speech sur les réseaux sociaux, du bashing sur les réseaux sociaux. Je me dis, il faut libérer la parole. Il faut permettre aux femmes de parler parce que je connais le bienfait que procure la parole. Je rentre tout le temps au village discuter avec les femmes. Parfois, elles ont l'air heureuses, mais elles ne le sont pas. Elles ont juste besoin d'une oreille qui l'écoute. Et quand je raconte des choses dans ce roman, c'est pour passer ce message. Il faut parler quand ça ne va pas. Et même si on pense que la situation est vraiment horrible, non, mais rien n'est jamais horrible. Ça devient horrible quand on se néglige, quand on perd la vie. Sinon, je pense que toutes les situations peuvent se résoudre.
Parler et nuancer, parce que c'est un roman qui montre la tension entre justement la tradition et la modernité.
Oui.
Aucune de ces façons de vivre ne rend heureux.
Oui.
C'est comme s'il fallait prendre le meilleur dans chacune de ces visions du monde.
Oui.
C'est ce que vous dites, mais est-ce que c'est possible?
Dans le roman, je ne dis pas qu'il faut rester traditionnel. Je ne dis pas qu'il faut foncer vers la modernité à l'aveuglette. Parce que c'est une question que je ne peux vraiment pas trancher. Si je me mets à trancher, c'est-à-dire, je commence à dire aux gens, faites ceci, ne faites pas cela. Ce que je fais, c'est que je raconte une société. Je raconte ce que je vois, ce qui s'offre à moi. Si les gens s'y identifient, tant mieux. Ce n'est pas une leçon que je donne, ce n'est pas que je dis la tradition était mieux que la modernité ou bien la modernité est plus bien que la tradition. Mais je rencontre une société dans laquelle deux façons d'être s'entrechoquent. Oui.
Et libérer la parole, ça passe aussi par la littérature.
C'est ça, c'est ça. C'est vrai que dans mon pays, on lit, mais très peu de personnes lisent. Mais parce qu'on n'a pas accès à la littérature. Mais je crois que les jeunes liront. Et voilà.
Eh bien, on va se quitter sur cette belle parole optimiste. Merci beaucoup, Hérnice.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc que vous êtes la lauréate de cette 3e édition du prix Voix d'Afrique, qui a révélé avant vous deux nouveaux talents. Je les cite, Yaya Diomandé de la Côte d'Ivoire et Fana Tiki du Congo-Brazzaville, et qui ont bénéficié comme vous aujourd'hui d'une résidence à Paris, à la Cité internationale des arts, notre partenaire. Vous complétez, vous enrichissez ce palmarès avec votre premier roman qui s'intitule donc « Comme une reine » aux éditions Lattès, avec qui RFI a fondé ce prix.
Merci Catherine.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.